Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venu ce soir pour écouter Alexis Génie qui va nous parler donc de son roman récemment, très récemment paru aux éditions Gallimard, L'art français de la guerre. Un livre dans le détail duquel on va entrer, mais pour commencer, pour le fixer un petit peu, on va dire que c'est un livre qui aborde à travers une figure singulière, celle d'un personnage nommé Victorien Salagnan. Un personnage qui a fait un parcours dont Alexis va nous parler ce soir, un parcours où on le trouve adolescent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le maquis lyonnais jusqu'à la guerre d'Algérie en passant par la guerre d'Indochine. Alors, pour commencer, on va aussi présenter peut-être notre invité d'aujourd'hui, Alexis Génie, qui est professeur, enseignant. En lycée, il est professeur de biologie, donc un professeur de sciences. Et c'est vrai que la première question que l'on peut avoir, surtout quand on regarde l'ampleur de l'ouvrage qu'il nous propose avec l'art français de la guerre, un gros roman très fouillé de plus de 600 pages, comment est-ce qu'un professeur de sciences réussit a envie d'abord et réussit à devenir écrivain, comment est-ce que ça s'inscrit dans le canevas de son existence qui probablement est déjà assez bien remplie avec, avec ce travail et puis une vie de famille j'imagine aussi.
Ça c'est parce que je suis un grand maniaque, alors j'ai une sorte de comment dire, d'horloge dans la tête qui fait que à telle heure de la journée, je fais telle chose, à telle autre heure, je fais telle chose, etc. Et tout s'enchaîne dans une sorte de régularité qui finit par être productive. Alors ça, c'est pour l'aspect pratique. Mais ça, je pense que toute personne qui écrit doit avoir un peu des façons de s'arranger pour arriver à écrire. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent. Je vois quand... ça fait quand même longtemps que je fais ça. Ça fait une vingtaine d'années que j'essaye de parvenir à écrire quelque chose. Et il y a 20 ans, quand j'avais une matinée de libre, j'arrivais pas à écrire. Parce que je pensais à la fin de la matinée qui arrivait, puis il y avait rien qui venait, puis ça m'angoissait, puis j'étais stressé, puis ça venait pas, puis la matinée était finie, puis voilà, j'avais rien fait. Puis maintenant, quand tout est bien organisé, si je commence à travailler à 10 heures, eh ben, de 8 heures pétantes à 10 heures pétantes, tac, 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 j'écris 2 pages. Et multiplié par un certain nombre de semaines, à la fin, ça en fait 600, voilà. Mais c'est une sorte de discipline, mais qui s'apprend, en fait. Puis heureusement, j'écris assez vite. Voilà. Par contre, j'y pense tout le temps. Je pense, c'est une sorte de... Je dois avoir une sorte de module de bavardage inséré dans le cerveau et qui fait que ça... Je pense toujours à ça. Alors, pourquoi je pense toujours à ça? Alors, je vais parler, plutôt que de parler du côté technique, le lien entre les sciences et la littérature. Finalement, si je jouais du piano, on ne s'inquiéterait pas que je sois prof de sciences. On dirait, il y a un prof de sciences, puis il joue du piano. C'est normal, voilà, bon. Pourquoi pas? C'est son hobby. Je suis peut-être prof de science, c'est mon métier, mais la littérature, c'est mon piano. C'est-à-dire, c'est une sorte de passion profonde depuis toujours, depuis enfant. Pourquoi je suis pas prof de lettres? Parce que c'est pas pareil. Un prof de lettres, c'est pas un écrivain raté. Prof de lettres, c'est un prof de lettres. C'est un technicien de la pédagogie des lettres, voilà. Comme je suis un technicien de la pédagogie des sciences. Mais à part ça, il y a la passion de la littérature, donc j'ai toujours beaucoup lu, et j'ai jamais voulu faire aucun métier là-dedans. Voilà, la littérature, pour moi, ça se fait, ça se lit, mais après, l'étudier ou l'enseigner, c'est autre chose, quoi. Donc voilà, je pense que c'est le paradoxe n'est qu'apparent.
Et le fait de s'être engagé dans... l'exploration d'une telle thématique, c'est-à-dire le passé colonial français, en partie, parce qu'on verra qu'il y en a d'autres que celle-là, mais elle est quand même très prégnante, puisque ce personnage a fait les deux grandes guerres coloniales de la France. Est-ce que c'était quelque chose qui, personnellement, vous questionnait, ou est-ce que, finalement, c'était le support possible, comme ça aurait pu être un autre, à vos ambitions littéraires d'écrivain.
Alors, j'ai écrit d'autres choses avant, d'autres choses qui étaient, qui ont été refusées partout, mais c'était vraiment moins bien. Il y a environ 5 ans, j'ai commencé ça. J'étais un peu désenchanté en disant que, voilà, de toute façon, voilà, je suis un prof de sciences qui joue du piano le dimanche, et puis voilà, terminé, quoi. Jamais je serai édité. Comme j'aime faire ça, je vais continuer, je vais me faire un roman pour moi. Donc, je voulais faire quelque chose qui soit plaisant pour moi, qui m'intéresse, qui me fasse plaisir à faire. Donc, il y avait tout un aspect comme ça, romanesque. J'avais envie d'explorer le romanesque. Après des années où j'avais une sorte de surmoi littéraire, c'est-à-dire que je me disais qu'il fallait que je fasse les choses comme ci, comme ça, pour être un vrai écrivain contemporain. Alors je m'embêtais avec des tas de choses, finalement. Voilà, l'âge mûr venant. L'âge mûr, c'est peut-être le moment où on sait ce qui fait plaisir et puis on le fait. Voilà, je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui allait avoir un aspect romanesque, c'est-à-dire de l'aventure, des lointains, des gens qui font des choses. Voilà. Alors ça, c'était un des moteurs. Un des moteurs qui était de ce plaisir de raconter. Puis après, je voulais que ce soit quelque chose qui corresponde à une aventure française. Alors pourquoi ? Parce que l'aventure, elle est un petit peu réservée aux Américains, qui font des tas de films d'aventure, des livres d'aventure, etc. On connaît la guerre du Vietnam bien mieux que la guerre d'Indochine. Alors que, elle ne nous concerne pas beaucoup. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de raconter quelque chose qui est une aventure française, sachant que les gens qui l'ont vécu sont toujours là, ou leurs descendants sont toujours là. Et ces histoires, elles circulent toujours. Ces histoires, on les a tous entendues. C'est-à-dire que tout ce que j'ai trouvé pour faire ce livre, il n'y a rien de secret, il n'y a rien de mystérieux. Je ne suis pas allé dans des bibliothèques pour exhumer des documents uniques. J'ai ramassé ce qui est disponible facilement, parce que je ne suis pas historien du tout. Donc finalement, ce que tout le monde peut se procurer. Mais par contre, voilà, j'en ai fait une histoire cohérente. Donc voilà, il y avait cette idée de faire un roman romanesque, une aventure française. Et aussi pourquoi ? Parce que je trouvais important à un moment donné de recoudre le temps, de réparer le temps. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire française, il y a comme un trou. Il y a comme un trou bizarre. Les 50 dernières années, elles sont mal racontées. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment les prendre, ces 50 dernières années. Et je me disais que là, il y avait un enjeu littéraire extraordinaire. C'est-à-dire une histoire qu'on ne sait pas raconter, je vais essayer de la raconter. Une sorte d'utopie un peu dingue, une sorte de... Mais bon, peu importe, j'avais le temps, hein. Je pouvais faire strictement ce que je voulais, puisque de toute façon, ça ne marcherait jamais. Donc, je me fais plaisir, je prends un projet, je me construis un projet complètement dingue et impossible à faire, et c'est parti. Je m'écris mon roman, et petit à petit, grossit, se structure, et il devient ça, 600 pages.
Mais 600 pages qui sont solidement ancrées dans une forme dont on va peut-être dire quelques mots. Donc, on va commencer par le titre « L'art français de la guerre », qui renvoie évidemment à un ouvrage qu'on a, sinon lu, au moins aperçu ici ou là, traînant dans une maison. Hein, « L'art français, l'art de la guerre » donc de Sun Tzu, hein, ce stratège chinois qui écrivait ce programme guerrier, mais qui n'est pas si guerrier que ça finalement. Hein, c'est une forme de guerre... singulière hein, qu'il propose.
Alors, en fait, c'est un ouvrage, L'art de la guerre, c'est un des grands classiques chinois. C'est une sorte de traité, plus ou moins taoïste, de la guerre. Alors ça veut dire que c'est pas que la guerre, ça fait appel à tout. Si vous regardez toutes les pratiques chinoises, qu'elles soient la médecine, la cuisine, les arts martiaux, la peinture, tout, toutes ces pratiques, elles mènent à l'universel. C'est-à-dire que tout ce que font les Chinois traditionnellement, en parlant pas de la Chine actuelle qui est autre chose, mais dans la pensée chinoise, toute pratique renvoie à l'universel et à l'équilibre de l'univers. Ça veut dire que dans l'art de la guerre de Sun Tzu, finalement, on explique que pour gagner la guerre, eh ben, il faut respecter les équilibres de force, les équilibres d'énergie, il ne faut pas aller contre finalement, il ne faut pas aller contre l'adversaire de façon brutale, parce que la force mène à l'échec. Il faut suivre les lignes d'énergie de la situation. Bon, c'est un petit peu compliqué. Alors, à la fois, c'est compliqué, et à la fois, c'est très simple, c'est très concret. Et comme tous les grands traités chinois, ce qui est fascinant d'un point de vue littéraire, c'est que ça mélange à la fois des histoires très simples, très triviales, très, très quotidiennes, et de la pensée extrêmement subtile. Et ça, dans le même texte. Et j'adore ces traités pour cette raison littéraire. C'est-à-dire le mélange du très spirituel, du très pensé, et du très simple, du très quotidien, avec des petites histoires, des petits contes. Et ça serait un idéal littéraire de refaire ça, mais en français. Alors pourquoi j'ai appelé ça l'art français de la guerre ? C'est un peu ironique. C'est finalement de dire que voilà, il y a un art de la guerre qui a été théorisé, mais c'est comme si en France on avait inventé un art purement national qui était un art finalement de l'échec dans la guerre. C'est vrai que, hélas, les quelques dernières qu'on a fait, ah bon, on a gagné celle de Libye, ça va, mais autrement, les quelques dernières qu'on a fait, on les a un peu perdues. Et dans la violence sociale qui règne actuellement, il semble que c'est le même art français de la guerre qui est en action, c'est-à-dire, en fait, un peu l'usage de la force. On se dit, il faut taper le poing sur la table, il faut être fort. Et si ça marche pas, on va essayer d'être plus fort encore. Et si ça marche pas, on va être encore plus fort. Alors que, justement, l'art de la guerre de Sun Tzu dit, non, la force mène à l'échec. Alors c'est ça aussi, dans ce titre, il y a une sorte d'allusion, il y a un clin d'œil, il y a un peu d'ironie. C'est de dire, finalement, il y a une sorte de continuité de la pensée française là-dessus. Et avec une sorte de goût pour la force et de goût pour l'échec. Voilà, nous avons une passion romantique pour l'échec.
Et ce que vous avez aussi retiré de cet ouvrage, c'est le nombre de chapitres, hein. Il y a 13 chapitres dans le traité de Sun Tzu, et il y a également 13 chapitres dans cet ouvrage qui est en fait scindé, comme on va le voir, hein. Ce sont des chapitres alternés entre la parole du narrateur, qui en gros propose sa vision de ce que lui raconte le personnage de Salagnan, qui lui raconte finalement sa geste, hein, son parcours à travers ses guerres, et aussi ce narrateur qui observe la situation contemporaine, parce que ce livre n'est pas qu'un regard rétrospectif, il est également un regard sur la société occidentale d'aujourd'hui, avec évidemment ce qu'elle doit à son passé récent, des dernières décennies. Et l'autre série de chapitres, c'est le parcours guerrier, amoureux, artistique, de Victorien Salagnan. Est-ce qu'il s'agissait uniquement de reprendre la forme initiale de ce traité de Sun Tzu avec ses 13 chapitres, ou est-ce que dès le départ il y avait une véritable volonté de donner une place équivalente à ces deux personnages, quasi équivalente, et finalement de dire que ce que pense, ce que vit le personnage du narrateur, qui n'est pas nommé, contrairement à celui du personnage Salagnan, eh bien, il y a véritablement deux histoires imbriquées et chacune devait avoir son importance au moment qui était le sien dans le livre.
Alors, je pense que enfin, le roman est construit dans un système de miroirs un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en effet, il y a deux fils narratifs qui se croisent, s'entrecroisent. Il y a des chapitres qui correspondent au passé, qui sont dans un style romanesque assez simple. Des chapitres qui correspondent au présent, qui sont dans un style plus compliqué, plus un peu oppressant. Voilà. Mais chacun est miroir de l'autre. ce qui se passe dans un fil narratif et fait écho à ce qui se passe dans l'autre et lui donne du sens, et etc. Et puis il y a également des miroirs entre le début, la fin, enfin, etc. Il y a tout un système un peu complexe de construction qui s'est mis en place petit à petit. Alors j'ai pas décidé au départ qu'il y avait 13 chapitres. En fait, au départ, j'avais décidé que mon personnage, il allait tout faire. Il allait être au maquis, puis en Indochine, puis en Algérie. C'est facile parce qu'il y a des gens qui ont fait tout ça. Quand on était l'armée française de 45, elle s'est formée à partir de ceux qui étaient dans les maquis en 44 on pouvait rentrer dans le maquis, passer dans cette armée française dès 46, se trouver en Indochine, être en Indochine jusqu'en 54, jusqu'à l'été 54, et puis à l'automne 54, se trouver en Algérie et aller jusqu'en 62. Il y avait une sorte de continuité. Il y a des gens qui ont fait ça. Alors, tout le monde n'a pas fait tout ça, mais il y en a qui ont fait ça. Et ce qui me fascinait, c'était cette continuité. Finalement, entre 44 et 62, il n'y a pas tant d'années que ça. Il y a des gens qui ont pu tout faire. Et ce qui était fou, c'était qu'au début, ils ont une certaine posture, et ils en ont une autre à la fin. Voilà, c'était ce basculement qui m'intéressait. Alors, je savais qu'il allait faire tout ça. Bon, donc déjà, il y a des épisodes un peu obligés. Et puis après, bon, il y a des choses qui se mettent en place. Et puis, j'avais une grosse matière. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ben voilà, cette matière, si je la divisais en chapitres et en 13 chapitres, ça marcherait bien, ça ferait un bel équilibre. Donc après, j'ai réparti dans mes 13 chapitres. Après, chaque chapitre, je lui donne une certaine forme, une certaine thématique, etc. Donc en fait, les choses se structurent petit à petit. Ça n'a pas été un projet au départ et après je le fais. Ça a été j'écris, j'accumule une matière, les choses se font lien. Et petit à petit, je les structure, elles se structurent, la structure me permet d'aller plus loin, d'en faire plus, etc. Et ça se restructure. Et donc, à la fin, ça donne quelque chose qui est assez architecturé. Il y a une construction littéraire de l'ensemble. C'est un roman, c'est pas un ouvrage historique. C'est un roman avec des procédés romanesques, des procédés littéraires. C'est-à-dire, ces jeux de mémoire, ces de miroir, ces jeux d'histoires qui se ressemblent, ces morceaux de phrases qui vont générer un épisode, etc. Donc je tiens à ça, à dire que c'est vraiment, même si ça utilise des faits historiques, c'est totalement structuré comme un roman et ça dit des choses purement littéraires. Et en termes de justesse et d'exactitude, j'espère qu'il y a une justesse et une exactitude humaine dans toute cette affaire. L'exactitude historique, des fois, je l'ai un peu arrangée, je sais où, de façon à ce que l'exactitude humaine et l'exactitude romanesque soient conservées. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment qu'on puisse se plonger à côté du personnage dans la situation, voir l'effet que ça fait de vivre ça. Ça, c'était important. Et après, les épisodes, je les ai sélectionnés de façon à ce que ceci, qui était la justesse humaine, par le biais de la littérature, puisse émerger. Voilà, entre la réalité et la fiction, j'ai toujours choisi la fiction. Mais parce que la fiction est parfois plus juste que la réalité. Bien sûr.
Et le ciment de cette justesse justement humaine, ça passe par l'amitié, parce que c'est aussi un roman sur l'amitié, puisque le narrateur sans nom, celui qui raconte toute cette histoire, est un homme jeune en rupture de ban, avec un regard très aigu, très critique sur la société dans laquelle il vit. Et c'est à la fois une histoire d'amitié et de transmission, puisque la rencontre avec Victorien Salagnan, qui a peut-être 30 ou 35 ans ou moins de plus que lui, c'est quelqu'un qui détient un matériau mémoriel et qui va le lui transmettre. Et on a vraiment l'impression que ce sentiment-là, l'amitié, c'est quand même au cœur du livre. Le livre est porté par ça.
Tout à fait. Et c'est vrai que bon voilà, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Alors cette amitié entre gens du même âge, mais également cette amitié transgénérationnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que quelqu'un d'âgé peut raconter à quelqu'un de plus jeune ? Qu'est-ce que quelqu'un de plus jeune peut entendre de quelqu'un de plus âgé ? Et ça, c'est quelque chose qui me touchait profondément. Et puis, c'est aussi l'idée de savoir ce que c'est qu'une lignée, d'hommes. Qu'est-ce que les hommes se racontent les uns les autres, comme ça, dans la suite des générations ? C'est drôle parce qu'il existe une littérature de la lignée de femmes. Il y a plein de romans qui racontent des histoires, de la mère, de la grand-mère, etc. Enfin bon, il y a tout un genre comme ça. C'est assez rare des romans de la lignée d'hommes. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien, mais peu importe. Et par contre, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais ce n'est pas pour flatter je ne sais quelle vision machiste, la virilité. C'est tout simplement parce que moi, je suis un homme et ça me touche et ça m'émeut ce que les hommes se racontent. On dit toujours que les hommes racontent rien, mais c'est faux, je vous assure. Mais c'est quelque chose qui était pour moi important. Et donc et également cette amitié aussi entre gens du même âge, parce que c'est ce qui est frappant aussi dans les situations de violence extrême, comme ont pu les connaître ces gens qui ont vécu tout ça, dans ces violences extrêmes, la seule chose qui peut-être rester, c'est le lien du groupe, mais des liens, alors, est-ce qu'on peut appeler ça amitié ou est-ce qu'on appelle ça sentiment du groupe, j'en sais rien, enfin c'est quelque chose qui est, voilà, on s'accroche aux voisins pour survivre. Et ça, il me semble que c'est quelque chose de fort. L'amitié qui naît de l'adversité commune, de la situation violente vécue en commun.
Donc, et là, donc, ce ne sont pas des gens, évidemment, qui ont vécu la même chose. C'est deux hommes, puisqu'il y en a un qui a peut-être une trentaine d'années, l'autre 70 passés. Donc il y a un véritable écart. Et en réalité, on pourrait croire que c'est une relation qui fonctionne à sens unique. Celui qui détient le savoir, en tout cas la mémoire, la transmet à celui qui ne sait pas, qui est avide de connaître. Mais il transmet aussi autre chose, c'est l'art de la peinture chinoise, de la peinture à l'encre de Chine, dont on sait qu'elle est non seulement un art, mais elle est aussi un art de vivre en Chine. Et en échange, le jeune homme, qui, quoi qu'il en dise, quoi qu'il soit, on va dire qu'il ait des doutes sur ses capacités à raconter, à écrire, il est capable de mettre en forme le matériau brut, maladroit, que lui livre l'homme âgé. Et autant cet homme âgé lui transmet donc à la fois son souvenir et un art qu'il maîtrise parfaitement, on va voir comment il l'a acquis au fil du temps et de ses campagnes, autant on ne peut pas dire que ça soit à sens unique parce qu'en échange, le jeune homme raconte finalement et transmet ce qu'il a reçu du vieil homme. Donc c'est une relation qui fonctionne à double sens.
Et c'est vrai que je crois que alors, il est peut-être possible que ce ne soit pas les gens qui ont vécu les choses qu'ils racontent le mieux. Alors ça, c'est aussi un truc qui a un lien avec la littérature. C'est-à-dire que, moi, tout ce que je raconte là, je ne l'ai pas vécu, bien sûr. Je n'ai jamais mis les pieds au Vietnam. C'est un climat qui ne me convient pas du tout. Mais la littérature permet de raconter les choses qui ne sont pas là. Et ça permet également de raconter l'histoire des gens qui ne savent pas la raconter ou qui ne peuvent pas la raconter. Des gens qui sont dans cette histoire, qui peuvent en citer des faits, mais pas obligatoirement la raconter. Parce que raconter, ça veut dire prendre une distance, prendre un fil, prendre un point de vue. Et ça, c'est très très compliqué. On connaît tous des gens qui ont vécu des tas de choses et ont vraiment du mal à le raconter vraiment de façon cohérente. Par contre, ce décalage que permet la littérature, cette façon de dire ce qui n'est pas là, de raconter ce... Finalement, la littérature, c'est aussi raconter pour les autres. Alors, pour les autres, pas... pas à l'intention d'eux, mais à la place d'eux. Voilà. C'est raconter pour ceux qui ne peuvent pas raconter. Et c'est vrai que, voilà, à un moment donné, je me suis mêlé de raconter quelque chose qui, encore une fois, est présent partout, qui, en fait, nous obsède. En fait, toute cette histoire-là, elle est totalement obsédante dans le monde actuel. Y en a des traces partout, mais on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment le regarder, on ne sait pas comment le voir. Et à un moment donné, je me suis mêlé de la raconter, alors que, au fond, au départ, j'y connais rien. La seule chose que je connais, c'est justement raconter et le mettre en forme. Et donc, c'est comme si j'avais raconté tout ça pour ceux qui ne le racontent pas, mais pour ceux qui l'ont vécu. Et j'ai eu quelques échos de gens qui avaient vécu ça, alors des gens qui m'ont lu, et qui m'ont dit que ce que j'avais écrit sur Lyon pendant l'occupation et le couvre-feu, c'était vraiment ça. Et puis le Vietnam, c'est extraordinairement crédible. À l'Algérie, on s'y croirait. Autant d'endroits où je n'ai jamais été. Enfin, Lyon, oui, mais pas sous l'occupation. Voilà. Et ça, c'est des compliments extraordinaires. Ça veut dire que la littérature fonctionne. Ça ne veut pas dire que moi, je suis très fort. Ça veut simplement dire que le principe même de la littérature, qui est de dire ce qui n'est pas, fonctionne. Et arrive à réévoquer dans l'esprit des gens des souvenirs qu'eux, ils avaient, mais qu'ils avaient du mal à raconter. Et ça, c'est une sorte de fonction presque magique. Voilà, c'est pour ça qu'on fait de la littérature. C'est pour, à un moment donné, ces espèces de sauts impossibles. Voilà, raconter des événements où je n'étais pas. Raconter des choses que je n'ai pas faites. Raconter des personnages que je n'ai pas rencontrés. Ça, c'est extraordinaire et ça fonctionne. Et la littérature peut faire ça.
Peut-être on pourrait dire quelques mots justement de ce personnage de Victorien Salagnan, puisque vous avez cité Lyon en 43-44, donc à la fin de la guerre. C'est un jeune homme de 17-18 ans qui, fils de la petite bourgeoisie commerçante et traficoteuse lyonnaise, et il décide donc de s'engager dans le maquis. Il décide. Les événements font que il prend le maquis, et par la suite, donc il va suivre cette trajectoire que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que une fois qu'il aura pris les armes, il ne va plus jamais véritablement les poser jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie. Et en même temps, non seulement il tient les armes, mais il tient les pinceaux. Et ça, c'est quand même peut-être beaucoup plus singulier encore que le fait d'avoir fait toutes ces guerres. Pourquoi avoir voulu faire de votre personnage, le capitaine Salagnan, qui n'est pas capitaine au départ, mais qui va, par ses hauts faits, le devenir, un artiste, véritablement quelqu'un qui est arrivé à un très haut niveau de maîtrise de l'art de la peinture à l'encre de Chine?
Alors, il y a des tas de raisons. Alors, les inventions, ça ne se rationalise pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est ce genre de choses qui arrivent comme ça. C'est-à-dire, un matin, je me suis dit, tiens, mon personnage, il va être peintre. Voilà. C'est le genre de truc comme ça, on se réveille et puis on se dit ça. Puis après, tout de suite, on se dit, oui, c'est pas possible, c'est pas crédible, etc. Enfin, le truc raisonnable. Puis après, je dis, bon, si, j'y tiens, ça m'intéresse, et tout ça. Bon. Donc, je l'ai fait. Et plus j'écrivais ça, plus je trouvais ça intéressant et finalement crédible. Et d'ailleurs, j'ai fini par trouver des exemples de types qui étaient dans cette situation-là et qui faisaient ça. Par exemple, j'ai trouvé... dans une revue de Vietnamiens exilés, une sorte de revue associative, etc., les dessins d'un Vietnamien qui était dans le Viet Minh, et des dessins qu'il faisait à Dien Bien Phu. Et il dessinait ses camarades Viet Minh à Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est quand même pas l'endroit où on dessine. C'est humide, c'est plein d'explosions, c'est plein de boue, etc. Et lui, il avait ses crayons, son papier, et il a laissé des croquis extraordinaires de soldats Viet Minh. Bon, voilà ce que fait le Viet Minh, pourquoi l'armée coloniale ne le ferait pas. Bon, mais c'est vrai que, après, le côté réaliste, peu importe finalement. Ce qui m'intéressait, c'était d'abord de parler de la peinture. Voilà, ça m'intéresse beaucoup, la peinture.
Et puis, on n'a pas dit que vous êtes aussi un dessinateur, certes amateur, mais régulier. C'est une pratique.
Voilà, ouais. C'est une pratique, voilà, une pratique qui m'intéresse beaucoup. Mais j'ai un art modeste, mais j'en sais assez pour savoir ce que ça serait si je le faisais bien. Donc ça, c'est bien. Et puis, surtout, dans le roman, la peinture, c'est les moments où ça se calme. Ça veut dire que la peinture, ça cause pas, ça parle pas, on s'arrête, on fait ça lentement, on fait ça assis, on fait ça en silence, et ça soulage. Et c'était des moments, dans une réalité très, très violente, très dure, un peu étouffante, c'est des oasis de calme. Et c'est ce qui permet aussi au personnage, qui a vécu une vie violente, c'est ce qui lui a permis peut-être de survivre psychiquement. C'est-à-dire, il avait cette espèce d'endroit calme, d'endroit où la violence ne l'atteignait pas. Et avec ça, en plus, il pouvait regarder, il pouvait prendre le temps de regarder. Il peut prendre le temps de regarder avant de réagir, etc. Alors que bon, j'ai fait un autre personnage qui a vécu un peu la même trajectoire que lui, et lui qui est à fond dedans, et psychiquement il craque. Voilà, c'est ça. Il craque complètement parce que il y croit à fond à cette histoire. Et puis c'est une situation tellement terrible qu'il y a quelque chose en lui qui lâche, quoi. Tandis que ce Salagnon, il est toujours un petit peu pas là. Il est toujours un petit peu à côté. Et le dessin, c'est ça aussi, c'est un peu être pas là, un peu être à côté. Et ça lui sauve la vie. Ça, finalement, ça lui permet de rester à peu près vivant dans cette situation compliquée.
Et ça lui sauve la vie, ça sauve aussi peut-être son âme, d'une certaine manière, puisque on va juste citer un épisode sans dévoiler évidemment la totalité, mais lorsque, dans l'épisode algérien, qui est un épisode extrêmement cruel auquel vous vous attaquez, puisque notamment il traite de manière frontale la question de la torture, et Salagnon, il est au plus près de ces pratiques de torture qui se déroulent donc à travers ces opérations policières et d'interrogatoires plutôt que auxquelles se livrent les autorités françaises via les parachutistes, les officiers, etc. Et lui, finalement, il est au plus près de ça. Mais en même temps, on ne saura jamais véritablement s'il a utilisé ou non les appareils de torture, puisque la plupart du temps, il dessinait ses camarades au sortir de leur sale besogne. Il en faisait une série de portraits qui étaient en même temps une manière de représenter réellement ce que vivaient les gens et le regard fou qu'ils avaient, notamment après en sortant de ces séances monstrueuses. Mais lui-même, il est un pas de côté, ouais, alors, à l'égard de ce qui se passe.
Ça peut paraître étrange. Dans ces espèces d'endroits d'interrogatoire, une sorte d'usine à interrogatoire, il y a un type qui va dessiner les autres, et c'est n'importe quoi. Je sais qu'il existe des photos qui ont été faites. Alors, il y a eu des photos de maquisards, par exemple, dans les maquis, ou des photos de parachutistes. C'est-à-dire que il y avait attaché à Bijard un type qui photographiait tout ce qu'il voyait, etc. Il faisait des portraits des parachutistes. Et dans le bureau de Bijard, il y avait des grands portraits faits par ce type-là. Et même Bijard et lui ont fait un bouquin. Alors j'ai eu du mal à le trouver. Je l'ai trouvé chez un soldeur. Je l'ai trouvé au fin fond du silo de la bibliothèque municipale. Alors pour une fois, j'ai fait une recherche. Et c'est une sorte de grande histoire très funèbre et romantique qui s'appelle « Aucune bête ne l'aurait fait », où on suit les paras de Bijard dans le désert. Et à la fin, il y en a un qui meurt, et justement, on le voit, et il est ramené par les autres dans une sorte de cérémonie. On se croirait dans la mort de Siegfried. Enfin, c'est assez étonnant. Donc, il y a eu des artistes, photographes, qui ont fait des images. Alors, pourquoi ces images ? Je crois que dans certaines situations, il y avait besoin de redonner un peu de gloire et d'humanité à des gens qui vivaient des choses dures. Alors, par exemple, c'est très très net dans les photos de maquisards. Il y a des photos qui ont été prises dans les maquis du Limousin. où on voit des jeunes maquisards qui ont quoi, qui ont 17 ans, 18 ans, et qui posent l'air frimeur avec leur béret de côté, avec leurs armes, et on dirait des sortes de, vous savez, les images des héros de l'Union soviétique, des sortes de types très, très costauds qui vont vers l'avenir, et ils posent comme ça. Alors, maquis du Limousin, vous imaginez le truc dans les forêts de sapins, voilà. Et ils ont pris le temps de faire ça. Alors pourquoi ils ont pris le temps de faire ça? Ça avait quel sens de faire ça perdu dans la forêt? Ben à un moment donné, de leur donner une sorte d'image d'eux-mêmes, de leur renvoyer un miroir d'eux-mêmes pour en faire des héros. C'est-à-dire que voilà, vous êtes tout seul, vous êtes quasiment à main nue, vous avez l'armée allemande en face de vous, vous êtes rien, ils sont tout, tant pis. Vous êtes des héros, d'ailleurs la preuve, regardez, nous allons vous construire une image de héros. Alors là, je le rationalise beaucoup, bien sûr, ça s'est pas dit comme ça. Ça s'est fait, à un moment donné, ouais, tiens, on va se faire des photos. Et c'est important ces images renvoyées, ces images construites. Alors on pourrait dire que Salagnou, en faisant ça, à la fois il a servi de ministère de la propagande à la division parachutiste. Donc à la fois il est un pas de côté, il sauve un peu son âme en touchant pas, mais... il maintient le système en redonnant courage à ses potes qui, eux, sont les mains dans le cambouis. Et quand je dis cambouis, c'est pour pas dire le sang et la tripe. Donc, c'est, finalement, il est dedans. Et puis, il reste avec eux. Alors, à un moment donné, bon, dans un épisode, oui, il y a quelque chose qu'il veut pas faire. Et puis, on lui dit, OK, faites pas. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est fascinant, que ce soit, bon, par exemple, dans les Einsatzgruppen, qui allaient, enfin, sur le front de l'Est. Hein, bon, il est connu que ceux qui ne voulaient pas participer au massacre, il suffisait qu'ils le disent à leur officier et on les mettait sur un autre poste. Mais très, très peu ont refusé. Pourquoi ? Bah, parce que ça veut dire que, on est de côté, on n'est plus dans le groupe. On n'est plus dans le, on devient tout seul de son espèce. Il faut être sacrément, en plus quand on est jeune et tout, il faut être sacrément sûr de soi, bien planté et bien droit dans ses bottes pour finalement accepter cette mise à l'écart. Donc rester dans le groupe, c'est essentiel. Et là, finalement, mon personnage, il reste dans le groupe. Il y a des amitiés très fortes, mais des amitiés un peu macabres, parce qu'elles sont basées sur un meurtre commun. Et c'est pour ça aussi qu'après, tout ça, c'est bien compliqué à raconter. C'est bien compliqué à dire. Parce qu'il y a des motivations complexes et mêlées.
Pour que cette réalité soit perceptible par le narrateur, il faut qu'il ait déjà lui-même une prédisposition très, très aiguë. Et on la ressent d'entrée, puisque le livre s'ouvre sur sa perception de la guerre du Golfe, hein, celle de 2003, celle de 91, avec ce qui se passe lorsque une partie du contingent français donc, prend le départ pour se rendre sur le théâtre des opérations de Desert Storm, hein, Tempête du désert. Et finalement, on sent bien que cet épisode, il est fondateur de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer en partant de cette guerre du Golfe de 91 et de ce départ du contingent français?
Alors, comme dans toutes les images littéraires, ça a plusieurs sens. Alors, il y a un sens direct qui est... c'est une réflexion que je m'étais faite justement en 91. Et je m'étais dit, ça alors, c'est la première fois que je vois une armée française partir à l'aventure et avec une sorte d'inquiétude palpable. C'est-à-dire que je voyais aux informations, on avait l'air de s'inquiéter pour eux. Bon, et on était touchés par ce qu'ils faisaient, on les voyait comme des personnes, etc. Enfin, comme si, comme je le dis dans le bouquin, l'armée revenait dans le corps social, comme si l'armée, c'était notre armée. Il y a 30 ans, dans les années 70, c'était pas imaginable de penser que notre armée, c'était notre armée. L'armée, on essayait de pas trop y penser.
Il faut dire qu'ils allaient affronter la 4e armée du monde, l'armée.
Donc on croyait que ça allait être terrible, mais en fait, c'était tout du pipeau, parce que voilà, c'était une armée en toc. Donc il y a déjà cette image-là. Et puis après, Il y a une raison littéraire aussi de construction globale entre le début et la fin. C'est-à-dire qu'au début, mon personnage, il est coincé dans une sorte de présent éternel, finalement, où il fait rien d'autre qu'être lui-même très très étroitement, où il fait pas grand-chose. Il fait ce qu'on fait quand on est que soi dans le présent. Il voit des choses par écran interposé. Il reste coincé dans une sorte de petite bulle très plaisante, mais vraiment étroite. Et je me dis voilà, c'est ce qui arrive quand on est dans le présent, on va pas bien loin. Et puis après toutes sortes d'aventures, et par cette amitié avec quelqu'un de bien plus âgé que lui, c'est comme s'il réintégrait le temps et la durée. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Alors c'est presque c'est une banalité, c'est-à-dire que quand on connaît son histoire, on va mieux. C'est-à-dire que quand on a accès au temps, à la durée, à l'épaisseur du temps, bon, ça n'empêche pas de jouir du présent, mais quand on conçoit cette épaisseur de temps, ça fait du bien. Et finalement, c'est une sorte de, je sais pas, c'est presque un récit. Ça pourrait presque être le récit d'une psychanalyse, c'est-à-dire que il y a un type qui va pas bien au départ, il est sacrément névrosé, et puis plus il va, plus il a accès au récit, au passé, etc. Après, il se sent bien mieux. Voilà, il peut arrêter l'analyse au bout de 600 pages. Mais c'est toujours interminable, les analyses.
Et derrière cette image aussi du départ des soldats français, il y a toute une réflexion sur ce que vous appelez le signe souterrain, là, le chiffre.
Ah oui, oui.
Le rapport de 1 à 10, qui est, comme vous dites...
Les guerres dissymétriques. Ah, c'est horrible. Je l'ai vu, j'en parle, j'ai vu ça dans un film. Il y a un film fabuleux, un film de... C'est Ridley Scott, je crois, voilà. Je ne l'ai pas nommé parce que... Mais alors, ça s'appelle La chute du Faucon Noir. Voilà. Film de guerre, super. J'adore les films de guerre. J'ai un goût enfantin et un peu honteux pour les films de guerre. Parce que voilà, j'adore les bruits d'hélicoptères, tout ça. Enfin bon, je vous regarde ça. Et puis on voit qu'à un moment donné, c'est des Américains qui vont dans Mogadiscio. Ils vont faire une expédition, ils doivent récupérer quelqu'un, etc. Ils y vont, puis après, ils se font tirer dessus, etc. Et puis, il y a 19 morts américains. Les 19 morts américains, on voit leur mort à tous. Chacun a droit à 5 ou 6 minutes pour exposer sa mort. Alors on le voit, il est touché, il a fait « ah, ah, ah », et puis mort, ah, les autres le tiennent, « ouais, attends, tiens bon, non, ah, enfin bon, etc. » Donc chacun a sa mort. Et puis à la fin, il y a la liste des noms de tous ceux qui sont morts. Et puis, bien sûr, ils ripostent. Et puis il y a plein de Somaliens, et puis ratatatata, avec des mitrailleuses extrêmement perfectionnées, ils zigouillent le Somalien en masse. Et donc à la fin, il y a les 19 morts américains avec leur nom, et ceci a coûté la vie à plus d'un millier de Somaliens. Et je me dis, mais ça, c'est fou. Et en plus, quand on voit les Somaliens qui sont hachés à la mitrailleuse, on se dit, chouette, ça y est, les méchants, ils sont descendus. Puis c'est affreux, comme ça, cette espèce de meurtre en masse. Et je me dis que c'est cette espèce de dissymétrie entre les quelques morts européens qui ont droit à une mort par personne et les morts des pays pauvres, des pays tiers-monde, qui finalement meurent en masse. Et toutes les guerres dissymétriques qui ont lieu depuis 1945, après 1945, fonctionnent là-dessus. C'est-à-dire combien la guerre du Vietnam a fait de morts ? Les Américains, on les connaît tous, les Vietnamiens, on les estime. Combien la guerre d'Algérie a fait de morts ? On ne sait pas du tout. Il y a des chiffres qui circulent, on ne sait pas, on ne saura jamais. Ils ne sont pas comptés. Il y a des morts qui sont comptés, il y a des morts qui ne sont pas comptés. Voilà. Et alors, moi, ce que je fais, là aussi, c'est un travail de romancier. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, etc. Simplement, à un moment donné, ces deux chiffres côte à côte, ça me plonge dans des abîmes de réflexion, et je me dis, voilà, c'est étrange. Nous avons parfois d'étranges pensées. Et je fais remonter ça. Je me dis, le roman, c'est ça aussi. C'est montrer des choses que tout le monde sait, que tout le monde connaît, que tout le monde a vues, mais on n'y fait pas trop attention. On va le chercher, puis on le remonte. Et ça, c'est un peu une des fonctions de la littérature. Montrer des choses que tout le monde connaît. Mais que finalement, on passe dessus, parce que, bon, pourquoi ? Quel intérêt ? Ah, je trouve que c'est intéressant.
Et je voudrais reprendre justement cette notion de romancier que vous employez dans votre propos et puis qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le roman. C'est une, on va dire, une lecture assez critique et assez caustique du grand œuvre du général de Gaulle, que vous appelez justement le romancier. Parce que lui aussi, il a fait œuvre romanesque.
Alors, voilà, j'ai dit à un moment que de Gaulle, c'est le plus grand menteur de tous les temps, mais il ment comme un romancier. Un romancier, ça ment toujours. Alors, c'est passionnant, les mémoires de de Gaulle. Alors, attention, j'ai une admiration sans borne pour les capacités du personnage, pour ce qu'il a fait. Ça, c'est fabuleux. Parce que, bon, finalement, c'était pas un grand militaire, il a jamais dirigé quoi que ce soit, mais par la puissance de son verbe, que ce soit à Londres ou même après, bon, il a réussi à transformer un pays vaincu et disparu en pays vainqueur. C'est-à-dire que la France soit à la table des vainqueurs en 45, c'était pas gagné. En 44, on était censé être occupé par les Américains, comme l'Allemagne. C'est de Gaulle qui a réussi à rassembler tout ce que la France comptait de forces vives et a finalement persuadé tout le monde qu'on était dans le camp des vainqueurs. C'est extraordinaire. Et il faut lire les mémoires de Gaulle. C'est une leçon de stratégie littéraire prodigieuse. Quand il raconte 1940, c'est prodigieux ça. Il raconte 1940. Alors, comme il est quand même légitimiste, il ne veut pas dire que le gouvernement a failli, etc., et que lui, il n'y a que lui qui peut sauver tout ça. Il faut quand même dire que le gouvernement, c'est le gouvernement légitime. Mais il faut dire quand même qu'il a failli. Et donc il arrive à zigzaguer, et c'est là qu'il y a cette page magnifique sur Pétain, où il dit que Pétain a été un grand homme, mais maintenant, la vieillesse étant un naufrage, il a plus bien toute sa tête, et il est la proie d'un entourage, etc. Et donc finalement, il arrive à dire que Pétain est un vieux schnock, tout en disant que c'est un grand homme. Ça, c'est bravo, chapeau bas, c'est un grand stratège littéraire, c'est un grand romancier. Mais tout ça, c'est écrit au profit un petit peu de lui et au profit surtout pour la plus grande gloire de la France, c'est-à-dire il reconstruit la France. Voilà. Après, une fois qu'on a lu ses mémoires, la France a disparu pendant quelques années, mais pas du tout. La France est éternelle, elle a toujours été là, il n'y a pas eu de problème. Bon, nous avons eu quelques soucis avec les Allemands, mais nous avons toujours résisté. Et après, finalement, nous sommes revenus aux affaires et tout va bien. Et il a écrit ça, et nous avons eu besoin, nous, Français, avons eu besoin qu'il écrive ça. Voilà, c'est un... Comme j'ai dit à un moment donné, nous sommes les personnages du roman de Gaulle. Je suis admiratif. Mais... Après, ce qui me gêne aussi, c'est que, du coup, tout ce que dit de Gaulle, on croit que c'est vrai. Alors, il en a dit des âneries. Alors, il y a un truc que j'ai pas mis, c'est dommage, des fois, il y a des choses qui sont... Parce que j'ai une grosse matière, Il y a, vous savez, dans la guerre des Gaules, il y a César qui raconte la guerre des Gaules, etc., comment il met la pâtée à tous les Gaulois, etc., il est très fort et tout, etc., bon, très bien. Et à la fin, il y a un dernier chapitre où il parle de la Germanie. Et il raconte toutes les rumeurs qu'il a pu ramasser sur la Germanie avec des gens qui vivent de façon très bizarre, avec des animaux légendaires. C'est limite s'il ne raconte pas qu'il y a des dragons, des types à une patte, etc. Il raconte en fait n'importe quoi. C'est un chapitre délirant. Mais il présente ça comme une réalité. En fait, il a ramassé toutes sortes de rumeurs, il les a écrites, et puis hop, il les présente comme ça. Et je me dis que parfois, dans les petits propos qu'on rapporte de de Gaulle, il y a des choses qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire un ramassis de propos de comptoir. On dit, ben voilà, c'est le grand homme qui a dit ça. Attention, on n'est pas grand homme tous les jours. Il a été grand homme. Mais ce n'est pas parce qu'il a été grand homme que tout ce qu'il a dit a une force invincible. Donc il faut quand même remettre de Gaulle dans son époque, dans son contexte. Personne ne dépasse son époque. Tout le monde est dans son époque. Il n'y a personne qui peut en sortir. Et ça, on ne s'en rappelle pas. On a l'impression qu'il est hors du temps, de Gaulle. Mais non, il est dans le temps, comme tout le monde.
Alors, j'aurais bien aimé qu'on, qu'on puisse... on va renoncer, hein, mais bon, je dis quand même ce que j'aurais voulu faire, parce qu'en même temps, ça rendra hommage aussi à la... à ce souffle, à cette puissance d'écriture qu'il y a dans ces pages. Il y a vraiment... c'est quelque chose qui est... le roman est long, il est très fouillé, il y a énormément de choses, mais je crois que c'est comme vous le disiez, c'est quand même il y a de l'aventure là-dedans, il se passe des choses, on n'est jamais dans le calme plat, sauf peut-être quand il y a les réflexions du narrateur, mais même ces réflexions-là, quand il offre une immersion un peu métaphorique dans ce que c'est qu'être français et dans ce que c'est qu'être quand il y a une comparaison, notamment, enfin on va pas insister, mais sur le fait d'être français et de comparer cette situation-là avec un long après-midi post-repas arrosé et très abondant un dimanche, et que finalement on n'en finit plus d'être ensemble et d'une sorte de ressassement. Et de bon, ça c'est des moments un petit peu qui sont à la fois très drôles et très qui sont des pauses évidemment dans entre ces chapitres d'action, mais véritablement c'est un livre qui offre beaucoup d'espace à ça, au combat, à la bravoure, et à finalement ce que c'est qu'être un soldat dans la tourmente. Parce que même si on n'est pas militariste, je crois qu'on apprend beaucoup de choses sur ce qui se passe dans la tête d'un militaire dans l'action. Alors je ne sais pas si, je sais qu'avant Alexis va avoir son taxi bientôt, s'il y a des personnes qui souhaitent faire signer leur ouvrage avant son départ, c'est peut-être maintenant que... ça va se faire. Et merci d'être venu et merci Alexis Génie de nous avoir présenté son livre ce soir.
Merci. Voilà. Merci. Merci d'être venu.